L'industrie est reine à Dunkerque, et l'environnement a parfois du mal à se frayer un chemin parmi les considérations économiques du territoire. Dans cette seconde partie de notre enquête dédiée à l'industrie dunkerquoise et à son impact environnemental, focus sur les racines du problème dans cette interview fleuve de Léo Heuguebar et Samy Bounoua, tous deux doctorants en histoire environnementale à l'Université de Lille. Vous écoutez On perd le Nord, le podcast des enjeux environnementaux dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bonne écoute. Samy Bounoua, Léo Heuguebar, bonjour, merci d'être avec nous pour cette émission d'On perd le Nord autour de l'industrie dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Vous êtes doctorant en histoire au laboratoire d'histoire de l'Université de Lille. Vous travaillez sur l'histoire de l'industrie, de la pollution industrielle et l'histoire de la santé globalement. Concrètement, le Nord, il avait une histoire industrielle qui est quand même assez riche, assez intéressante. Est-ce qu'on peut résumer peut-être en quelques mots, si l'exercice est possible, cette histoire industrielle?
Alors oui, merci de l'invitation. En quelques mots, c'est difficile, mais je vais essayer de ramasser les choses. Le Nord, effectivement, a une riche histoire industrielle. Quand on parle d'industrialisation, en fait, on parle surtout de mécanisation du travail, de production qui commence à se massifier, qui commence à se standardiser également. Et c'est un processus qui commence doucement à partir de la fin du XVIIIe siècle. Dans le Nord, on associe souvent l'industrialisation à l'exploitation du charbon. Les premières mines de charbon commencent à être massivement exploitées au XVIIIe siècle, les mines d'Anzin notamment et d'Aniche. Le charbon n'est pas majoritaire comme source d'énergie pendant assez longtemps, en fait, hein, mais ça commence à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, et ce processus en fait, va se développer tout au long du XIXe siècle. Je parlais du textile notamment. Bon, le textile, c'est vraiment le cœur de la production régionale, notamment la production de la laine dans l'agglomération de l'île Roubaix-Tourcoing, et Valenciennes également en pointe dans les dentelles. Puis les industries chimiques vont aussi se développer, en lien d'ailleurs, en synergie avec l'industrie du textile, puisque bon, les fabricants de textile ont besoin de blanchir leurs tissus, ils ont besoin de teinturiers, donc pour ça, ils font appel à des chimistes. Et parallèlement aussi au développement de la mine, se développe la métallurgie, la sidérurgie pour fabriquer, par exemple, les ateliers mécaniques qui vont servir aussi à l'industrie textile. Et tout cela, c'est un processus en fait qui prend plusieurs décennies. Ce n'est pas une révolution qui apparaît en un coup, mais un processus.
Bon, ce qu'on comprend, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire du Nord, l'industrie prend beaucoup de place, devient un sujet d'emploi.
Exactement.
Une activité économique ultra importante qui permet de faire tourner le territoire. Si on se concentre un peu aujourd'hui, par exemple, sur le Dunkerquois, qui est le sujet central quand même de notre émission, on voit que l'agronomie et la sidérurgie ont pris une place très importante, de même que la pétrochimie, par exemple, sur toute cette zone portuaire. Comment on peut expliquer justement ce poids grandissant de cette industrie dans le Nord qui s'est peut-être substitué justement à ce qu'a pu être le charbon ou le textile pendant longtemps?
Justement, en fait, comme le textile et le charbon, la crise, la désindustrialisation, etc., à la fin dans la deuxième partie du XXe siècle, et très vite, en fait, on a perdu les employeurs principaux, les activités principales, et on a cherché de nouvelles activités, forcément. Et on a trouvé donc celle-ci, donc le pétrole notamment, parce que après la Seconde Guerre mondiale, c'est la ressource sur laquelle la France et les pays occidentaux en général, la ressource principale pour reconstruire le pays, parce que ensuite avec du pétrole, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses, donc du plastique, etc. On peut faire de l'essence, des carburants, etc. Donc c'est un peu une ressource miracle pour redresser le pays. Et Dunkerque, c'est un port, donc c'est super pratique pour faire voyager les ressources. C'est un port qui remonte, qui se trouve dans un couloir maritime qui remonte très loin, donc c'est une des routes commerciales principales au monde. Et en plus, Dunkerque, c'est aussi un endroit qui est une porte d'entrée en France, parce qu'on a tout le réseau de canaux de la région, qui démarre et qui débouche sur Dunkerque. mais aussi les réseaux ferroviaires, etc., qui sont hyper développés. Donc, par exemple, la sidérurgie à Dunkerque peut envoyer son acier et son fer jusqu'en Lorraine.
Et donc, oui, le rôle prééminent de Dunkerque, qui va aussi du coup se situer par rapport à son emplacement géographique, la proximité donc à la fois avec la Manche, mais également peut-être aussi l'accès facilité aux Pays-Bas, à la Belgique, à l'Allemagne,
qui est proche. L'Angleterre, qui est aussi un grand pays industriel. Et on est en plus dans un bassin de population qui est en plus très important pour le Nord-Pas-de-Calais en général.
Justement, il y a des politiques publiques qui ont été mises en place, Léo Guebar et Samy Venoua, pour développer cette industrie.
Alors oui, alors dès la fin du 19e siècle, si on parle de Dunkerque, à l'échelle nationale, un projet de modernisation du port est lancé par le ministre Freycinet, ministre des Travaux Publics. Le projet est lancé en 1879. Il y a un député qui a joué un rôle important aussi dans cette modernisation, qui est le député Tristam, qui a donné son nom à pas mal de coins de Dunkerque. Dunkerque, en fait, dès la fin du 19e siècle, devient déjà un pôle sidérurgique. Fin 19e siècle, début 20e siècle, hein, puisque 1912, c'est la création de l'usine des Dunes, hein, qui est déjà un pôle sidérurgique important. Et comme l'a rappelé Léo, Dunkerque est un port, donc la production dunkerquoise va être exportée vers l'Angleterre, vers l'Allemagne, vers d'autres territoires. Par ailleurs, c'est également au début du XXe siècle que sont créés les ateliers et chantiers de France, hein, les chantiers navals de Dunkerque, qui commence à fabriquer des bateaux en acier à vapeur, et Dunkerque est en pointe à ce niveau-là. Et plus récemment, après la Seconde Guerre mondiale, Dunkerque est détruite par la guerre, c'est le plan quinquennal français, hein, qui remodernise Dunkerque, en fait une zone industrialo-portuaire, un port gigantesque, bien plus qu'à la fin du 19e siècle. Hein, c'est, dans les années 60, je crois que c'est 7000 hectares de terrain, c'est assez, assez énorme, avec l'implantation d'usines or, l'implantation d'autres établissements industriels également.
Et plus, encore plus récemment, parce qu'on a effectivement la zone industrio-portuaire des années 50-60, entre 87 et 92, on a ce qu'on appelle les plans industriels et commerciaux. On a une crise dans les années 80 de la sidérurgie et des chantiers de construction de navires, les secteurs plongent vraiment à Dunkerque. Et encore une fois, on a une crise, du coup, les activités s'arrêtent et on essaie de les remplacer. Et en fait, l'État crée des zones où on défiscalise très fort pour les nouvelles entreprises, en fait. Et on a donc une politique publique qui permet à de nouveaux secteurs et de nouvelles entreprises. Donc, il y a de l'industrie chimique, de l'industrie agroalimentaire, un peu de textile même qui revient, alors qu'on est dans les années 90, donc c'est presque assez étonnant finalement, mais c'est un plan qui relance l'activité à Dunkerque alors que c'était très compliqué à l'époque. Donc oui, on a des politiques publiques qui viennent soutenir l'activité du port.
Historiquement, le coût environnemental de cette industrie, il est pris en compte dans les politiques publiques
dans ce territoire, en fait, c'est surtout à partir des années 1970 que dans les politiques publiques, des programme de lutte pour un environnement sain sont mis en place, notamment sous la pression d'associations. Alors, il y a une association, pardon, qui s'appelle ADELFA, l'association de défense de l'environnement du littoral de Flandre. Voilà, j'ai bien retenu l'acronyme. à partir des années 70, donc, l'agglomération dunkerquoise, la communauté urbaine de Dunkerque, essaye de concilier en fait industrie et écologie en formulant notamment le concept d'environnement industriel dans les années 90. Hein, on trouve dans ça dans des documents qui datent du début des années 90, produits donc par la communauté urbaine de Dunkerque. Et l'objectif, c'est d'imposer aux industriels une réduction en fait de leurs émissions de polluants. On pense beaucoup aux émissions de CO2, mais ce n'est pas la seule pollution. Il y a plein de pollutions à Dunkerque. Et effectivement, depuis maintenant une trentaine d'années, ces politiques sont mises en place. Avec un autre concept aussi qui est important, c'est celui d'écologie industrielle. Voilà. L'objectif, encore une fois, c'est de concilier le développement industriel et un environnement sain, avec des résultats mitigés, on peut déjà le dire. Puisque voilà, bon, il était question du pétrole, de l'usage du pétrole à Dunkerque, et Total est présent à Dunkerque depuis les années 70, avec les raffineries de Flandre.
BP des années 30.
Et BP des années 30. Et,
c'est des grosses entreprises quand même, je veux dire, c'est pour ça que je cite BP.
Alors aujourd'hui, il s'agit de promouvoir, comme je disais, l'écologie industrielle, l'environnement écologique, et ces entreprises-là promettent de réduire leurs émissions de CO2. Or, il y a... une étude passionnante qui a été faite en 2021 par Christophe Bonneuil et ses collègues qui montre que Total savait parfaitement quelles allaient être les conséquences de son activité économique sur le climat. Dès 71, il y a des notes internes où très précisément les cadres de Total affirment que bon, si on continue comme ça, on va réchauffer le climat. Mais sur le plan public, Total n'a pas cessé en fait d'instiller le doute, de fabriquer le doute en disant en fait on ne sait pas trop l'origine anthropique, on a encore des doutes. Et encore aujourd'hui, voilà, Total dit qu'il va s'engager dans la transition écologique, transition énergétique, et les résultats ne sont pas là.
Oui, parce qu'effectivement, si on regarde au niveau des résultats actuellement Dunkerque, ça représente quand même 21% des émissions industrielles de France. C'est quand même considérable en termes d'échelle quand on compare voilà, à la taille de la ville. Ce qui peut d'ailleurs peut-être rappeler à d'autres égards Fos-sur-Mer, par exemple, dans le sud de la France, qui est dans les mêmes proportions. En ce qui concerne la santé, justement, et là je me tourne vers M. Léo Hugbar, qui travaille beaucoup là-dessus. Le Nord, il a été marqué d'un point de vue de la santé des habitants par ces politiques industrielles.
Ça va faire un peu cliché ce que je veux dire, mais il faut savoir que beaucoup d'études sur la santé en France et que beaucoup d'études sur la santé, quand on étudie une maladie, le Nord-Pas-de-Calais, c'est toujours une zone où cette maladie-là, elle est présente plus que la moyenne régionale. Donc c'est la moyenne nationale, pardon. Alors c'est difficile d'en parler parce que justement, mais les liens sont évidemment hyper compliqués à faire parce que il y a un nombre de pollutions, de substances différentes qui ont été envoyées dans l'atmosphère et qui sont encore présentes dans l'environnement incalculable. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait des thèses et qu'il y a des projets de recherche là-dessus, parce que c'est super compliqué à faire ressortir, mais quand même, il y a des liens qui ont été faits. Par exemple, le lien entre le saturnisme et le plomb est fait depuis 180 ans, à peu près. J'aurais dit, voilà, qu'on a l'usine Metal Europe qui fonctionnait à Noël-Godot et Courcelles-lès-Lens, qui fonctionne entre 1894 et 2003. Et encore aujourd'hui, on a des cas de saturnisme chez les enfants. J'ai vu un article de France 3 il y a un ou deux mois où il disait justement il y a une recrudescence des cas de saturnisme. Leur collectivité, elle est arrêtée depuis 20 ans maintenant. Donc oui, effectivement, il y a des liens entre les pollutions provoquent des maladies. Les liens ne sont pas forcément faits, mais il y a des liens qui sont faits, et je veux dire, c'est même plus à prouver que les pollutions ont un impact sur la santé publique.
Il y a une étude qui a été faite en 2017 par Anne-Peggy Elkin et ses collègues, qui montre que dans l'agglomération de Dunkerque, ce sont dans les territoires les plus industrialisés qu'il y a le plus de maladies. Alors, bon, corrélation n'est pas causalité, mais on peut quand même soupçonner qu'il y a un lien de cause à effet, puisque quand on va dans les lieux comme Grande-Synthe ou Petite-Synthe, où les industries étaient très très présentes, bon, il y a beaucoup de maladies respiratoires notamment, mais dans d'autres quartiers plus résidentiels, plus huppés, eh bien, on n'a pas ces maladies-là.
Donc on a des personnalités du monde altermondialiste, du monde de la protection contre les pollutions qui ont avancé le terme en fait par rapport à l'histoire industrielle de zone de sacrifice, zone sacrifiée, où en fait ce sont des territoires où on regroupe toutes les industries. Ça marche très bien pour le Nord-Pas-de-Calais parce que on a le bassin minier avec où on extrait la houille, mais la houille, en fait, on va en faire du charbon, mais il n'y a pas que du charbon, c'est pas du sangbon à 100%. En fait, on a une industrie des sous-produits de la houille qui se développe autour du bassin minier et qui remonte jusqu'à Dakar, parce qu'avec les sous-produits de la houille, on peut par exemple faire de l'ammoniac pour les engrais, on peut faire du goudron, etc. Et donc c'est pour ça qu'on parle de zones de sacrifice où les populations sont vraiment sacrifiées à l'industrie, parce que toute la population, la majeure partie, je pense que dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a pendant très longtemps à plus de 50% d'emplois d'actifs qui sont employés dans l'industrie. Et en fait, ce sont donc des zones où les populations travaillent dans l'industrie, sont donc sujettes en tant que travailleurs aux pollutions industrielles, mais en plus, la population qui ne travaille pas forcément dans l'industrie, qui est juste voisine de l'industrie, subit aussi les pollutions. L'industrie du Nord-Pas-de-Calais, elle a quand même débuté il y a quelques siècles, et on subit toujours aujourd'hui, alors qu'on est quand même dans une... Même si on a une grosse partie des populations, des pollutions dans la région, on a moins d'industrie qu'avant, et on subit encore aujourd'hui les pollutions d'il y a 200 ans.
On peut considérer que le Nord est encore aujourd'hui une zone sacrifiée.
Elle a été sacrifiée avant, mais elle est du coup toujours... pour revenir à Metal Europe aujourd'hui, dans un rayon de 4 km autour, l'agriculture est toujours interdite.
Merci beaucoup Samy Bounoua et Léo Hugbard d'avoir participé à cette émission. Donc, vous êtes doctorant, je le rappelle, au laboratoire d'histoire de l'Université de Lille. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode d'On perd le Nord dédié aux enjeux environnementaux autour de l'industrie dunkerquoise. Si vous n'avez pas écouté la première partie, on vous invite très sincèrement à vous y rendre sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming et également sur notre site web onperdlenord.fr. Sur ce même site web, vous retrouvez plus d'informations sur le sujet et sur d'autres enjeux environnementaux dans le reste des deux départements. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt.